Simplement que la journée sera lourde, chargée, et que, étant donné justement cette journée de Noël en Église, il nous faudra faire très attention. Mais j'ai pensé ce matin vous traiter du sujet suivant de la façon la plus raccourcie qui soit, parce que c'est tout un sujet. Noël ou la face de Dieu retrouvée. Et avec la face de Dieu retrouvée, la gloire de Dieu retrouvée. Vous savez qu'une fois le péché entré dans le monde par Adam et Ève, je rappelle comme cela rapidement ce triste événement qui nous est rapporté au livre de la Genèse dans ses premières pages. La face de Dieu a été perdue par les hommes. La face de Dieu en même temps que sa gloire a été perdu à cause du péché. Et ce texte, un autre texte, d'Ésaïe 59, dit quoi ? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et l'homme a eu justement la face de Dieu cachée à partir du moment où le péché est entré dans le monde par le biais de nos premiers parents. Mais ce Dieu qui est l'amour dans sa personne a toujours souhaité rendre aux hommes, en quelque sorte, sa face, en même temps que sa gloire. Mais comment en arriver à dénouer le problème ? Ça n'est pas du tout évident. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et il y a peut-être parmi nous ce matin des hommes, des femmes, justement, dont le péché cache encore, leur cache la face de Dieu, révélée en Jésus-Christ. Je ne sais si tu contemples la face de Dieu en Christ, parce que c'est sur sa face que Dieu a voulu faire briller, comme dit l'apôtre aux Corinthiens, toute sa gloire sur la face de Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, nous découvrons que Dieu a un visage. Dieu a une face. On pourrait passer énormément de temps à méditer sur l'expression « la face de Dieu » dans l'Ancien Testament. Comment se fait-il qu'on lui ait prêté une face ? Jésus nous ayant dit, en même temps que l'enseignement insistant, l'Ancien Testament insistant sur cet enseignement, Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il est donc un être invisible, aux yeux charnels, aux yeux de la chair. Il ne peut pas être capté par la vision de l'homme. Il est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. En vérité, ça, c'est Jésus qui l'a dit. Et l'Ancien Testament ne cesse de mettre l'emphase sur cette grande vérité biblique. Mais un esprit peut-il avoir une face ? Certainement que non. Pourquoi Dieu est-il esprit ? Parce qu'il est Dieu, d'une part, parce qu'il habite une dimension que la Bible appelle l'éternité, et parce qu'il est esprit, il peut être présent sur toute la face de la terre, disons plutôt la surface de la terre, pour que chaque individu ici-bas puisse l'approcher, le connaître, etc. Alors, pourquoi cette face de l'Éternel dans l'Ancien Testament ? Mais déjà, le mot « face » de l'Éternel dans l'Ancien Testament est riche de sens. Pourquoi ? Parce qu'il est au pluriel. Je ne sais si ici si quelques-uns ont fait de l'hébreu, comme c'est mon cas quand j'étais aux études théologiques. Il y a trois formes de conjugaison en hébreu. Le singulier, le duel. Quand on parle de deux, eh bien, on emploie des termes tout à fait différents que lorsque l'on parle de trois. Alors, quand on parle de la face de Dieu, c'est un pluriel à partir de trois. Le mot hébreu panim, littéralement les faces de Dieu. Mais pour une meilleure compréhension, on ne dit jamais cela. On dit la face de Dieu. Parce qu'à cette face de Dieu correspond un singulier. Et il y a déjà ici révélé le mystère de la Trinité dans l'Ancien Testament. Comme ce même mystère de la Trinité, Dieu en trois personnes, est révélé à partir du premier verset de l'Écriture sainte en Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit Elohim Shamaim Aretz Bara. Elohim, c'est le nom de Dieu. Là encore, c'est un pluriel et qui n'est pas fait de deux, mais à partir de trois. En réalité, nous devrions lire au premier verset de la Genèse, au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Une preuve que précisément notre Dieu qui est un est fait de trois personnes bien distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce même Dieu, je vous donne des arguments si vous êtes en face d'un témoin de Jéhovah. Hein. Souvenez-vous de Elohim, souvenez-vous de Panim, souvenez-vous... Bon, j'en arrête là parce que vous allez vous mélanger les pédales. Et le mot Panim, la face de Dieu, étant aussi au pluriel, correspond à ces trois personnes qui forment l'unique Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Et pour mieux encore cerner ce dont il s'agit à propos de la face de Dieu, dans l'Ancien Testament, en Nombre 12:8, ne cherchez pas, je vais lire ces textes, il est écrit que Moïse contemplait. Certaines versions disent une figure de l'Éternel, les versions catholiques par exemple, ou synodales, Osterwald catholique aussi, Moïse contemplait une image de l'Éternel, les Bibles protestantes en général, une représentation de l'Éternel. Tout ceci pour nous dire que Moïse, en tant que prophète tout à fait particulier, contemplait déjà en son temps la face de l'Éternel. Cette face au pluriel, Père, Fils, Saint-Esprit, et il y a, nous pourrions ainsi faire toute une étude dans l'Ancien Testament sur... toutes ces annonces prophétiques de ce Dieu qui, un jour, se révéla dans une personne qui a été la manifestation de sa face au milieu des hommes en Jésus-Christ. Oui, Moïse contemplait donc une forme de Yahvé. Je ne dis pas Jéhovah, je n'aime pas que nous employions ce terme parce qu'il nous fait penser aux témoins de Jéhovah avec lesquels nous n'avons rien à faire et qui ne sont pas réellement dans la vérité. Je préfère employer le terme de Yahvé. Nous pourrions même traduire par ce texte, Moïse contemplait une forme de Yahvé, une forme de l'Éternel. Voyez-vous, il est souvent très difficile de rendre en français ce que les textes hébreux ou grecs nous rapportent de ce Dieu, dont déjà il est question de la face au pluriel dans l'Ancien Testament. Pour ce qui est du Nouveau Testament, alors, tout à coup, il est question justement de ce Christ venu la faire connaître, cette face de l'Éternel. En Jean chapitre 14, nous lisons, par exemple, au verset 7, « Si vous me connaissiez, dit Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez, quoi ? Vu ! » Ça n'est pas pensable. Vous l'avez vu ! Mettez-vous à la place des disciples qui entendent le Seigneur leur parler de cette façon-là. Moi, je pense que j'aurais été renversé. On aurait dû me rattraper par terre. Vous l'avez vu, en regardant le Christ, on voit le Père. Mais oui, dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et de poursuivre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a été très exclusif. Hein. Il n'a pas dit je suis une des vérités, un des chemins et une des vies possibles. Le Christ a été très exclusif dans sa façon de parler de lui-même à ses disciples. Puis ensuite d'ajouter... Et dès maintenant, pardon, je vais reprendre tout le texte, j'ai des problèmes de vue. J'ai changé de Bible avec de gros caractères, j'ai une mémoire visuelle que je ne retrouve plus dans cette nouvelle Bible, mais je vais reprendre le texte tout entier afin qu'il soit clair ce matin dans nos esprits. Alors voilà, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient à Dieu que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit, question qui aurait été dans chacune de nos bouches, si nous étions des disciples. Au milieu d'eux, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, montre-nous le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Dans un chapitre précédent, ce même Jésus d'avoir dit, aux Juifs de sa génération, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Le Christ a eu donc pour ministère de nous rendre cette face de Dieu perdue à cause du péché. Et avec cette face de Dieu, la gloire de Dieu. Nous comprenons ce texte un peu mieux de Romains 3, 23, qui dit « Tous sont péchés, quelle que soit leur race, leur condition sociale, la couleur de leur peau, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu parce que pécheurs. » Un pécheur est par définition quelqu'un qui a été privé de la gloire de Dieu. Mais le Christ est venu rendre aux pécheurs cette gloire de Dieu perdue. Voilà une notion qui nous échappe très souvent. Dans quel but ? Afin que nous le glorifions, ce même Dieu. Que nous puissions réellement entrer dans ce qui fut notre première vocation sur cette terre, laquelle glorifiait Dieu. Il faudra qu'un jour nous passions du temps avec cela. Quelle mission pour les hommes et les femmes sur cette terre aujourd'hui ? Glorifiez Dieu, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que c'est vrai ça aujourd'hui ? Est-ce que nous le louons tous les jours ? Nous qui nous disons chrétiens, ou bien est-ce que nous pensons à lui comme ça, et quand ça nous chante ? Dieu t'a fait pour que tu puisses glorifier Dieu tous les jours. Dieu m'a fait pour que je puisse le glorifier tous les jours. Mais pour en arriver là, il faut que je le retrouve, lui, dans sa gloire. Mais si Dieu me reste un illustre inconnu, comme c'est le cas la plupart du temps, bien que nous nous disions chrétiens, c'est nul. Ça ne vaut rien. Il nous faut donc retrouver cette face de Dieu perdue à cause du péché. J'aime bien cette version anglaise à propos de Romains 3, 23 qui dit « Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. » Ceci pour montrer à quel point nous ne pouvons pas avoir accès à la gloire de Dieu en étant dans nos péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une façon de traduire. Je crois que toutes nos versions traduisent à peu près de cette façon-là, mais il en est une en anglais qui dit « Tous ont péché, mais n'atteignent pas à cette gloire, parce qu'ils en sont privés à cause de leur péché. » Mais une fois le péché évacué, lavé, purifié, de quelle façon ? Bien entendu, la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie, nous nettoie de tout péché. Une fois donc lavés, purifiés, nous retrouvons la face de Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Mais le Christ est venu pour évacuer le péché. Et personne en dehors de lui n'a travaillé dans ce sens. Seul il est mort sur la croix, dans ce but, afin de nous débarrasser de nos péchés, afin d'enlever justement cet obstacle du péché, faisant barrage sur la route qui conduit à Dieu. Est-ce que nous avons eu justement notre péché effacé, ôté, purifié? Quand ceci est fait, alors nous croissons, nous grandissons dans la connaissance de la face de Dieu par Jésus-Christ, lequel est venu nous la faire connaître ici-bas. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et puis l'apôtre Paul, d'ajouter encore cette parole tout à fait remarquable en Colossiens 1, 14. Je pense qu'il serait bon que nous lisions à partir du verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Mes amis, l'héritage des saints dans la lumière. Vous savez, il faut expliquer le mot « saint ». Le mot « saint » ne correspond pas à ceux qui, comme très souvent on l'imagine, ont eu sur cette terre des vies chrétiennes exemplaires et qui leur ont mérité la gloire de Dieu. Certainement pas. La Bible dit que le saint, c'est celui qui a été mis à part. Dès que quelqu'un reçoit le Christ dans son cœur pour son sauveur personnel, il devient un saint. Et le vrai sens du terme saint en grec, c'est mis à part. Mis à part pour Dieu. Mis à part pour servir Dieu. Mis à part pour glorifier Dieu. Mis à part, tout simplement. Et dans le Nouveau Testament, le mot saint est synonyme du terme fidèle, le fidèle d'une église. Il est synonyme du terme disciple, il est synonyme du terme chrétien. Un véritable chrétien dans son cœur, sauvé par grâce, est un saint. Il y a combien de saints ici ? L'héritage des saints dans la lumière. Mais saints, nous le sommes bien entendu toujours par grâce. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, nous dit l'apôtre, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alors ensuite, j'allais dire, il y a là comme une vitrine, hein, une carte de visite du Seigneur. Le Christ est l'image du Dieu invisible. Oh, et le terme ici employé en grec par l'apôtre est le terme eikon, qui a donné d'ailleurs icône, hein, les icônes. Il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu qu'on ne peut pas saisir parce qu'esprit. Hein. Le Christ est venu pour nous révéler sa face. Vous ne trouvez pas ça remarquable ? Et c'est dans ce but-là qu'il est venu à Noël. Il est le premier-né de toute la création, car en lui, tout a été créé, n'est-ce pas ? Dans les cieux, sur la terre, les choses visibles, invisibles, etc. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, etc. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude, pléroma en grec, habitât en lui. Toute plénitude habitât en lui. Et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Le grand ministère de réconciliation de Jésus-Christ, de la part de Dieu pour les hommes, où qu'ils vivent sur la surface de la terre. Alors il est important que nous retrouvions la face de Dieu. Cette face de Dieu en Jésus-Christ. Il y a plusieurs expressions à propos de cette face de Dieu. Par exemple, pour parler de bénédiction, la Bible emploie cette expression que Dieu fait luire sa face sur son peuple, par exemple, ou sur une personne, ou sur une nation. Oh, Dieu fasse luire sa face sur cette église. Oui ? Vous ne voulez pas ça ? Non ? Oui, qu'il fasse luire sa face en Jésus-Christ sur nous tous. Mais il est aussi dit que il peut se faire que Dieu tourne sa face contre. Précisément lorsque nous péchons. Il peut se faire que le Seigneur alors tourne sa face contre nous. Hein. Par exemple, ceci est dit dans un texte au psaume 34, verset 17. La face de l'Éternel est contre ceux qui pêchent et ceux qui font le mal. En fait, tourner sa face contre, c'est... Nous pourrions le rendre de cette façon-là pour une meilleure compréhension, faire les gros yeux. Vous êtes parent? Oui? Vous avez eu les plus beaux enfants? Parfois, vous les avez admirés? Votre face a comme lui, hein, devant eux? Mais parfois, vous leur avez fait les gros yeux, hein, parce qu'ils ont fait le mal, tout en continuant de les aimer. Et puis, il est aussi dit que Dieu peut cacher sa face. Dieu peut cacher sa face à ceux qui persistent dans un certain entêtement à vouloir réaliser ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, sans prendre la vie ni le conseil de Dieu. Deutéronome 31, 18. En ce jour-là, je continuerai de lui cacher ma face à cause du mal qu'il a commis en se tournant vers d'autres dieux. Dieu étant un Dieu jaloux, un Dieu qui ne supporte pas que nous adorions quelqu'un d'autre qu'en lui, en Jésus-Christ. Il l'a dit dans les commandements, n'est-ce pas ? Et qu'il est un Dieu jaloux, la face de l'Éternel caché. Et puis aussi, la Bible dit qu'on peut volontairement s'en éloigner. À propos de Caïn, après le meurtre de son frère Abel, en Genèse 4, 16, il est dit qu'il s'en alla loin de la face de l'Éternel dans une terre d'exil. Il me semble que l'homme est aujourd'hui comme une sorte d'exilé sur cette terre, hein, ne sachant pas ce qu'il doit vivre, dans quelle direction aller. Pourquoi ? Eh bien, parce que volontairement, la plupart du temps, il s'éloigne, mais délibérément, de la face de l'Éternel. J'espère que personne ici ne s'éloigne de la face de l'Éternel, de cette face que Jésus-Christ est venu nous redonner en venant vivre parmi les hommes. C'est lui et lui seul que la Bible a appelé Emmanuel. Ça signifie quoi ? Dieu parmi nous. Et en tant que Dieu parmi nous, il nous a rendu cette face de Dieu que nous ne cessons de découvrir et qui est absolument merveilleuse. Vous aurez tout à l'heure sur la table, au fond, un exemplaire de ma dernière lettre de prière que j'ai trouvé bon de commencer avec ces mots. Le mystère de la piété est grand, en rapport avec Noël, n'est-ce pas ? Dieu a été manifesté en chair. C'est Dieu qui a été manifesté en chair et personne d'autre. Or, Dieu manifesté en chair égale Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Et c'est celui-là que nous sommes appelés, nous sommes invités à connaître de plus en plus. C'est réellement vers sa personne que toutes les saintes écritures nous orientent. Quelqu'un disait à juste titre, le Christ est tout entier, dans la Bible tout entière, pour le monde tout entier. Alors il nous faut, si ça n'était pas encore déjà fait, nous mettre en quête de la face de Dieu. Avec tout ce que cela peut comprendre, j'allais dire, d'explication, la face de quelqu'un, c'est lui-même, c'est sa personne. La face de quelqu'un, c'est sa personnalité, c'est son caractère. Voilà le programme de Dieu pour ses enfants, par Jésus-Christ, apprendre à le connaître. Et la Bible dit quoi encore ? La vie éternelle, c'est quoi ? Qu'il fasse beaucoup d'œuvres ? Non. La vie éternelle, c'est quoi ? C'est Jésus qui a dit ça, en Jean 17, hein, dans cette fameuse prière à son Père. La vie éternelle, c'est qu'ils, les hommes, te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, qui ? Jésus-Christ. C'est cela, la vie éternelle. Et Jésus, dans un autre texte, a dit, « La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils... » Où est-ce qu'on le voit, lui ? Dans la parole de Dieu, hein ? On le découvre. « Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. » Alors, pour nous qui lisons la parole de Dieu, eh bien, nous voyons le Fils. Nous contemplons la face de Christ, et par elle, nous avons accès à Dieu. Et nous voilà donc réellement transformés à son image. Je terminerai avec cela. Oh, j'ai l'impression de vous avoir donné une étude assez décousue. J'ai là énormément de choses, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois, on reprendra cette affaire de face de Dieu, de gloire de Dieu, de vocation du chrétien, de ne cesser de grandir dans la connaissance de la gloire de son Dieu. Mais 2 Corinthiens 3,18 dit quoi ? Nous tous qui le visage découvert, est-ce que notre visage est découvert ou est-ce que nous voyons flou ? Pour ce qui est des choses de Dieu, que d'hommes, de femmes se disant chrétiens, c'est dommage. Se disant chrétiens restent dans le vague, le clair-obscur. C'est peut-être ton cas. Eh bien non, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, on voit clair, hein, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Quel miroir ? C'est quoi le miroir ? La parole de Dieu. C'est là que le Christ est révélé, dans la parole de Dieu. Hein ? Et d'ailleurs, lui-même l'a dit aux Juifs. Il a dit aux Juifs, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir par elles, en elles, la vie éternelle. Ce sont elles qui me font connaître à vous. » Et ça, il faut que nous gardions ce texte. Je crois que c'est Jean 5, 39. Merci Seigneur pour ton aide. Je crois que c'est ça. Ce sont les Écritures qui me font connaître à vous. Si donc je ne les lis pas, les Écritures, je ne peux pas connaître le Seigneur. C'est clair ? Ce sont elles qui me font connaître à vous. Parce que dans l'Évangile est révélée, justement, la personne de Christ, sa face. Nous tous qui le visage découvert, pour ne pas faire comme Moïse, lui, il était quand même encore dans le flou, le Christ n'était pas encore révélé au monde. Nous tous qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, les Saintes Écritures, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, dit saint Paul. Hein, nous sommes transformés en la même image, quelle image ? De Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu, dans cette contemplation de Christ, de sa face et de sa personne, nous sommes transformés à son image. Voilà tout le programme de la vie chrétienne. Est-ce que tu es entré dans ce programme-là ? Ou bien tu n'y es pas ? Alors, si tu n'y étais pas, c'est pour cela que le Christ est venu. Afin que tu ne sois pas chrétien de nom, chrétien d'étiquette, chrétien d'éducation ou chrétien de culture, mais que tu sois un authentique chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui contemple la face de Christ et qui est transformé à son image de gloire en gloire dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Hein ? Oh, quel bonheur que cette fête de Noël, destinée à nous rendre la face et la gloire de Christ. Amen.